Louis Nervez, la suite ce soir, direction l'Inde. Avant de commencer, je fais les présentations avec nos invités. Ingrid Terwatt est journaliste à Courrier International. Vaiju Naranave est journaliste indépendante. Patrick Dejaclot est journaliste ex-correspondant à New Delhi. Et Shimuna Sinha est écrivaine. Les présentations sont faites. Générique.
Moi, wow, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Rebonsoir ou bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent ce soir pour le NRV La Suite, direction l'Inde, un mois après la réélection sans difficulté du Premier ministre indien. Et c'est un événement puisque jamais la droite hindoue n'avait obtenu un second mandat d'affilée. Alors comment expliquer le succès de Narendra Modi et des nationalistes hindous opposés pour ces législatives à Rahul Gandhi, le dirigeant du parti du Congrès? À quoi ressemble ce nationalisme-populisme hindou? Quel impact pour les minorités et en particulier sur la communauté musulmane, et comment peut-on expliquer autant de haine à leur encontre dans le pays de Gandhi? Où est passée la philosophie de l'Inde?
C'est ça.
Vous aviez un titre, Christophe Bourseillet.
Oui, au secours, les enfants de Gandhi sont devenus fous.
Vous en aviez d'autres. Gandhi,
oui, plein
c'est
d'autres.
Fini.
Alors, j'en avais plein d'autres. Nationalisme, populisme, xénophobie, Gandhi, c'est fini.
Très bien.
Pas mal.
Allez, c'est le sujet du
nerf. Un petit peu racoleur.
Oui, un petit peu.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Christophe Bourseillet.
Écoutez, à chacun son Graal, Laurent. On peut rêver d'atteindre le sud de l'Australie, le Far West, le Cap de Bonne-Espérance ou l'Inde. Oui, Laurent, pendant des années, j'ai vu des tripotés d'Occidentaux revenir d'Inde les yeux écarquillés en affirmant « j'ai vécu une expérience humaine ». C'est ainsi, Laurent, il y a l'Inde fantasmée par les Occidentaux qui fait de chaque habitant du sous-continent un Ravi Shankar sans sitar, un Gandhi aux pieds nus, un gourou étincelant, un hippie qui a tout compris, ça c'est entre guillemets. Vous me suivez en Inde, Laurent? Et puis, il y a la réalité, toujours énervante. On apprend que l'Inde et le Bangladesh sont au bord de la guerre, qu'une guérilla maoïste ensanglante le Kerala, que des viols collectifs sont commis, que les musulmans sont pourchassés et assassinés, bref, que dans le pays de la non-violence, la haine, la xénophobie et justement la violence sont omniprésentes. Cerise sur l'agneau korma, l'Inde a aujourd'hui un gouvernement national populiste. Alors, après Indira Gandhi, Marine Le Pen, Ingrid Terwatt, que faut-il penser selon vous de la réélection récente du gouvernement de Narendra Modi?
Alors, on peut en penser beaucoup de choses. Moi, je vous disais hors antenne et je le redis puisqu'on m'y exhortait que j'en pense du mal. Justement, voilà, j'en pense plutôt du mal. Mais je vais pas en rester là. Je vais vous expliquer pourquoi j'en pense plutôt du mal. Alors, d'abord, je constate qu'il a été élu démocratiquement et qu'il a été élu avec une majorité
confortable.
C'est un triomphe. C'est un plébiscite. Et
on
ça a été voulu
d'une
comme
campagne
ça.
Un peu frauduleuse. Est-ce que c'est le cas?
Non. Elle a peut-être été frauduleuse un petit peu et il y aura des on fera revoter si nécessaire, mais on peut quand même considérer que l'élection s'est déroulée de façon juste et qu'il a été démocratiquement et triomphalement réélu. Ça c'est un constat et on ne peut pas lui enlever cette légitimité qu'il obtient par les urnes. Mais comment gouverne-t-il et comment a-t-il fait campagne? Ça suscite la plus grande inquiétude chez moi, mais pas que chez moi, chez beaucoup de mes concitoyens indiens, chez beaucoup de journalistes, chez beaucoup d'intellectuels aussi. Pourquoi? Parce que c'est un national-populiste, vous l'avez tous les deux dit dans votre présentation, et il veut incarner seul le pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne veut pas d'intermédiaire, on ne connaît quasiment que lui de la classe politique. Il veut s'adresser directement au peuple en écartant tous les intermédiaires, les médias, les syndicats, etc. Il y a une verticalité incroyable du pouvoir. Ça s'approche, on s'approche un petit peu de la dictature du point de vue formel. Du point de vue des droits, jamais depuis Bolsonaro, une élection n'avait été regardée par les minorités dans le pays avec autant d'inquiétude. Quand vous avez des millions, des centaines de millions d'individus dans le pays qui attendent avec crainte, voire les larmes aux yeux, le résultat du scrutin, c'est qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il y a des lynchages, parce qu'il y a de la discrimination. Pourquoi il y en a? Et contre qui? Contre les minorités. Les musulmans, principalement, qui sont la première minorité du pays, mais aussi contre les chrétiens, contre les ce qu'on appelle les intouchables en français, on devrait dire les Dalits en hindi. Tous ces gens subissent des discriminations quotidienne. Et ce phénomène ne date pas de Modi, il est bien antérieur, mais il s'est accentué grandement sous le règne, on peut vraiment parler de règne de Modi, parce que Modi défend une idéologie qui n'a rien de neutre, qui n'a rien au fond de très démocratique, même s'il arrive au pouvoir par la démocratie. Il défend une, comme idéologie, l'Hindutva. Hindutva, c'est grosso modo l'Inde aux hindous. Et les autres seront au mieux tolérés et des citoyens de second rang.
Pourquoi le parti du Congrès ne propose pas une alternative véritable à Modi, Vajjoun Naravane?
Bah, parce que le parti du Congrès a été totalement décimé. Le parti du Congrès a été décimé parce que il a vraiment perdu son appel à l'imaginaire populaire. Avant, c'était le parti qui était issu de la lutte pour l'indépendance de l'Inde. C'était le grand parti historique qui était plus un mouvement qu'un parti. Donc, tout le monde trouvait un petit peu sa place dans ce vaste mouvement qui avait des gens qui venaient de droite, qui venaient de gauche. Il y avait des intellectuels et ce parti se définissait avant tout comme un parti séculaire. Alors, cette notion de sécularisme a été mais complètement vaincue par le discours qui a été tenu.
Vous voulez dire de laïcité, c'est ça, un concept de laïcité, c'est ça
que
vous voulez dire?
Oui, par la laïcité exactement, parce qu'en Inde, le sécularisme veut dire que la religion est présente dans la vie publique et dans les espaces publics, mais que toutes les religions sont à l'égalité, selon la définition indienne.
Les bouddhistes, les indiens, les musulmans,
oui,
les chrétiens,
les jains et tous les autres. Sauf que cette idée a été absolument balayée. Et dès qu'on commence à parler de sécularisme, les hindouistes nationalistes ultra de Narendra Modi vous accusent de toutes sortes de choses, une espèce de libéralisme mal placé. Selon eux, l'hindou a été faible parce qu'on a été conquis par les Anglais et par les musulmans pendant tant de siècles. La dynastie Mughal a pris fin uniquement en 1857. Donc, c'est très récente cette histoire. Et ils ont fait de cette lutte hindou-musulman vraiment leur menée. Donc, c'est difficile pour le Parti du Congrès. En plus, le Parti du Congrès a été défait par son dynastie qui est celui des Nehru et des Gandhi, parce que Rahul Gandhi, c'est le cinquième ou le sixième en ligne. Et vraiment, c'est pas quelqu'un qui a le charisme d'Indira Gandhi ou l'autorité de son père Nehru, ni l'honnêteté ou le charisme de son propre père, qui était le fils d'Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. Et donc, c'est un nul qu'on a mis au pouvoir, qui n'a pas pu parler avec l'électorat, qui n'a pas su séduire.
Patrick de Jacques-Le, donc vous attendiez vous aussi à la victoire de Modi?
Ah, écoutez, peu de gens s'attendaient à une telle victoire.
Hein. Oui, à ce niveau-là,
objectivement, les experts et les politologues, etc., annonçaient tous que le résultat serait très serré, indécis, que Modi aurait peut-être besoin de trouver des alliés pour arriver à avoir une majorité au Parlement. Et en fait, tout ça a été balayé par un succès que personne n'avait venu voir, et moi pas plus que n'importe qui d'autre.
Mais c'est une vague populiste mondiale.
Ben alors, absolument.
Parce que c'est exactement la même chose que l'on disait pour Trump, la même chose pour Bolsonaro.
C'est le Brésil, c'est l'Italie.
Écoutez, il y a un parallèle qui est de plus en plus frappant, c'est avec la Turquie d'Erdogan. Entre Modi et Erdogan, il y a beaucoup, beaucoup de points communs. Hein. On arrive au pouvoir de façon parfaitement démocratique, on l'exerce de façon de moins en moins démocratique. On est dans ce phénomène de démocratie illibérale qui se répand absolument partout dans le monde.
Alors vous Choumona, vous dites quelque chose de particulier par rapport à ça. J'ai lu un article de vous dites « Les séries télé sont à la source du nationalisme indien ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Alors, pour moi, Modi, lui, personnellement, il n'est pas bipolaire, mais pour moi, il mène une politique de bipolarité. Il a un discours national, local, il y a un autre discours quand il vient vous présenter ici, se présenter ici en France, ou quand il va rencontrer les chefs d'État internationaux. Donc, il y a une bipolarité déjà. Et j'entendais évidemment, j'écoutais mes camarades, c'est que il y a longtemps, ça a commencé avec les téléséries, ça c'était un des outils
de BJP, mais quand on parle de
Bharatiya Janata Party.
Oui, mais ça a commencé depuis longtemps, depuis l'indépendance, mouvement indépendantiste pour décoloniser l'Inde, Congress qui a voulu rassembler tout le monde, et des hindous, et des musulmans chrétiens de toute origine, enfin, toute confession religieuse confondue, il y avait eu des fractures. Il y a eu à ce moment-là même qu'il y a des leaders hindous pour libérer l'Inde qui n'a pas voulu partager l'eau de repas avec les militants et les leaders musulmans. Faut pas oublier, ça là-dessus, vraiment, je ne cesse que répéter, je m'en tue à le dire à chaque fois, c'est qu'il ne faut pas oublier que Narendra Modi était militant de RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh, extrêmement fanatique, hindouiste, et ce RSS, militant de RSS, Nathuram Godse, a assassiné Mahatma Gandhi.
Et Narendra Modi, membre du parti qui a assassiné Gandhi, donc.
Nathuram Godse, qui était militant de RSS, qui a assassiné Mahatma Gandhi. Et ce n'est pas un militant qui est devenu fou furieux, qui a réagi seul. Pas du tout. C'est RSS qui était violemment contre Mahatma Gandhi parce qu'il considérait cet assemblement hindouiste de l'époque, de 1945-47 par là, il considérait Gandhi pro-musulman, qui n'était pas assez hindouiste. Donc, ça a commencé depuis longtemps, depuis l'histoire de l'Inde, depuis l'indépendance de l'Inde, le mouvement de l'indépendance de l'Inde. Ça a commencé que le BJP, depuis le début, a commencé par propager la haine communautariste et par la violence meurtrière.
Mais le BJP, c'est un très vieux parti.
Quelqu'un qui a assassiné Mahatma Gandhi et son parti, Narendra Modi lui-même était militant de RSS. Lui-même, il était militant de RSS. RSS, Shiv Sena, sont aujourd'hui des alliés, cette partie de l'alliance de BJP. Donc, c'est la même partie qui continue les violences meurtrières entre les hindous et les musulmans, entre les communautés, et qui vient aujourd'hui au pouvoir. Et les militants, les électeurs de BJP aujourd'hui, ouvertement sur les réseaux sociaux ailleurs, déclare que Hitler, c'est notre chef. Si Narendra Modi ressemble à Hitler, ça sera formidable. Ils n'ont absolument aucune conscience de ce que c'est le fascisme ou la Shoah. Ils n'ont pas entendu parler de la Shoah. J'ai honte par rapport à cette élection, à ce résultat. Est-ce que les Indiens, non seulement les pauvres, comme les gens qui n'ont pas l'accès à l'éducation, à la campagne, même les gens qui sont éduqués à l'université, les nouvelles générations, les étudiants, Mein Kampf est un best-seller en Inde. Comment ça se fait?
Ingrid Terwatt.
Mais ça s'explique. La colère de Shumana, je la partage entièrement, en tout point. Et ça s'explique très bien. Elle a raison de parler de fascisme. Elle a raison de rappeler que Mein Kampf est en vente libre, est un best-seller en Inde. Pourquoi ? Et je vais vous expliquer pourquoi Narendra Modi n'est pas un leader comme un autre. Il dirige le BJP, le Bharatiya Janata Party.
Vieux parti, donc.
Non, pas tant que ça. D'accord. Pas tant que ça, justement. C'est pas un si vieux parti. C'est un parti qui date des années 80. Mais c'est pas un parti ordinaire. C'est pas l'équivalent hindou nationaliste des démocrates chrétiens ou que sais-je, des partis dont on a l'habitude, nous. Non, c'est l'émanation politique, ça n'est que la branche politique d'un mouvement bien plus large qui s'appelle RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh, ce qui veut dire Association des Volontaires Nationaux, et qui est une milice qui a été créée en 1925 sur le modèle... C'est ça, c'est beaucoup plus ancien, effectivement, comme mouvement, qui a été créé sur le modèle des faisceaux mussoliniens. D'ailleurs, ils portent un short et une chemise brune. Ils font un salut qui rappelle beaucoup le salut nazi, le Sieg Heil. Et toute l'idéologie est littéralement, historiquement, fasciste. Il y a une admiration pour le fascisme et le totalitarisme. Le BJP n'est que l'émanation politique de ça. Et le RSS a des branches. Une branche politique, donc, mais aussi un syndicat paysan, un syndicat étudiant, une maison d'édition, une branche pour la jeunesse. Ils sont présents dans toutes les sphères de la vie. Et Narendra Modi, lui, est l'émanation de ça. Et pourquoi est-ce qu'il a gagné de façon aussi triomphale? Alors que le Congrès gagné les élections, le BJP avait perdu les élections régionales de ces 6 derniers mois. Donc c'est pour ça que beaucoup d'analystes, dans leur bureau confortable, disent voilà. Pourquoi? Parce que le RSS, c'est des millions de membres. Des millions et des millions de membres. Et ils sont partout en Inde. Plus ou moins présents selon les régions.
Ils ont maillé le territoire.
Oui, ils ont fait du porte-à-porte, ils sont allés convaincre tout le monde. Ça, c'était une raison. Il y avait le niveau hyper local, très grassroots politics. Et puis, aussi, il faut dire que 98% des financements politiques sont partis au parti de Narendra Modi. Hein. Il y avait une manne, un trésor de guerre. Et donc, il y a des gens qui ont dit, des journalistes indiens qui ont dit, comparer le BJP de Narendra Modi au congrès de Rahul Gandhi, c'est comme comparer un avion de chasse avec une bicyclette. On ne se bat pas avec les mêmes armes.
On va repartir en Inde dans quelques instants. Même on y reste avec un répertoire aussi gigantesque que son pays, avec 50 000 enregistrements selon le Guinness Book. C'est la chanteuse indienne Lata Mangeshkar. J'ai bien prononcé ?
Mangeshkar.
Mangeshkar, je me disais aussi. Lata Mangeshkar dans le NRV, un titre qui ne fait pas l'unanimité parmi nos invités.
Indiens, pour quelle raison, ne sont pas
pour quelle raison Ingrid Thérouat d'abord
Bon, moi, je, comme Shumona, je préfère plutôt sa sœur. Et puis moi, ces voix ultra aiguës, comme celle de Lata Mangeshkar, qui est effectivement la voix de l'Inde. Hein. On l'a appelé le rossignol de l'Inde. Nehru l'a appelé le rossignol de l'Inde. C'est une voix pas naturelle, une voix de... suraiguë, qui était à la mode, qu'on a rendu à la mode parce que ça imitait une espèce de voix virginale de petite fille, pas une voix de femme. C'est une façon, c'est hyper misogyne en fait, si on veut, de cette représentation des femmes. Donc moi, j'aime pas trop, non.
C'est un peu la voix Bollywood. Sina.
Moi, ce sont des chansons de Bollywood et tout le Bollywood. Voilà. On parlait tout à l'heure de la politique, c'est là, on parlait de l'argent. Ingrid, tu as commencé à parler de l'argent, financement. Eh bien, c'est le même l'argent sale, noir, de marché noir, qui finance les films de Bollywood. C'est qui va financer les partis politiques candidats,
Maharashtra,
BJP. Et puis, c'est là l'argent de mafia, tout le marché. Je ne vais pas extrapoler la discussion tout de suite ailleurs, mais puisqu'on a déjà introduit l'histoire de l'argent dans ce débat politique, c'est que c'est le même argent. Imaginez le film Slumdog Millionaire.
Oui.
Vous voyez le frère aîné qui regardait l'ancien bidonville de Bombay, Dharavi, qui est en train de se transformer dans les grandes métropoles, mégapoles, oui. Les tours. Eh bien, c'est le même argent noir qui se fait blanchir et dans le marché de real estate, et dans le film de Bollywood, et dans la politique. Donc, c'est le même argent noir qui
circule. On aurait mieux fait de mettre Nana Mouskouri. Hein.
Donc, oui, vous pourriez... Enfin, ça serait peut-être pas très culturellement approprié, mais donc, ce Bollywood, c'est pas seulement Lata Mangeshkar, c'est le Bollywood qui me dérange, qui véhicule effectivement l'image très, très dégradée de la femme, la misogynie qui véhicule, c'est ça, ça me dérange depuis longtemps.
Patrick de Jacquelot, vous êtes d'accord avec cette vision de très dure, comme ça, de Shumana Sinha?
Bah, écoutez, plus globalement par rapport à tout ce qui s'est dit dans la première partie, j'aurais bien aimé remettre les choses un petit peu en perspective. Je voudrais quand même pas que les auditeurs ressortent avec l'impression que l'Inde est peuplée de militants fascistes, néo-nazis et qui rêvent de voir l'équivalent de Hitler arriver au pouvoir. C'est quand même pas tout à fait ça. Les liens historiques entre le RSS et les mouvements néo-nazis, la présence au sein du RSS de gens extrêmement extrémistes ne fait absolument aucun doute. Mais enfin, les deux tiers d'Indiens qui ont voté pour Modi ne sont pas des militants fascistes.
Mais pour autant, ils peuvent être instrumentalisés par des militants fascistes.
Peut-être. Non, mais ça n'est pas pour ça qu'ils ont voté pour Modi.
Alors, ils ont voté pourquoi pour Modi? Alors, même que son bilan économique est désastreux.
Parce que Modi incarne un projet de développement de l'Inde que le Congrès est devenu incapable d'incarner. Modi, à tort ou à raison, a eu l'image d'un gestionnaire efficace quand il était à la tête de l'État du Gujarat. Il s'est fait élire une première fois en promettant une des grandes réformes économiques et une modernisation de l'Inde. Ça n'a pas réellement marché, le succès a été très limité. Il n'empêche que c'est lui qui incarne le mieux l'image d'une
Le chômage s'est accentué en 5 ans et les réformes sont contestées.
Quand on parle du boom économique de l'Inde, ça a commencé avec Manmohan Singh,
qui était
étudiant, ancien élève de London School of Economics. Oui. Il a relancé, en quelque sorte, l'économie telle qu'on voit aujourd'hui en Inde. Modi, dès le début, quelqu'un d'autre très malhonnête. À part parler de tout ce que nous en train d'en discuter, c'est quelqu'un qui est foncièrement malhonnête, qui peut avoir plusieurs visages, plusieurs discours. Quand il vient s'asseoir sur le boom économique lancé par le Congress, c'est un vieux parti fatigué, on n'y croit plus. Vous avez dit très justement que Rahul Gandhi, on n'y croit pas parce qu'il est tombé parachuté sur la politique de l'Inde. Il n'a rien à faire avec la politique de l'Inde. Donc, ça fonctionne pas avec le Congress. Mais le boom économique est lancé par l'ancien Congress. Modi arrive, il a un discours pour les gens citadins qui vivent dans les grandes villes. Il a un autre discours pour les gens qui vivent à la campagne. Il y va avec les tenues tribales, traditionnelles, avec un sabre à la main, avec sur la tête une couronne de vautours sur la tête. Il se présente comme un chef guerrier à la campagne. C'est comme ça qu'il a mené la campagne. Et quand il vient ici pour acheter la Rafale, on va parler peut-être de Rafale, de la vente et l'achat de Rafale. On va aussi discuter comment et par quels moyens le 143 millions de dettes fiscales, ça a été effacé par la France au moment que François Hollande était au pouvoir.
Il y a une question comment ça s'est fait, madame? Je voudrais simplement un petit peu revenir là-dessus. C'est-à-dire, Modi est sans doute malhonnête. Modi est sans doute quelqu'un qui aime contrôler les choses. Mais ceci dit, il a une machine à propagande qui fonctionne à merveille.
On est d'accord.
À merveille. Il est quelqu'un qui a court-circuité, comme disait Ingrid, les intermédiaires. Il utilise son compte Twitter. Dans ses 5 années au pouvoir, il n'a pas donné une seule
interview.
Conférence de presse. Ouais. Il a donné 3 interviews récemment.
Débat pendant la campagne avec les autres candidats.
Mais
c'était des interviews de complaisance avec des journalistes qui étaient plus ou moins achetés, qui étaient de son côté de toute manière. Et je dois ici décrier complètement les médias indiens qui ont perdu de vue leur fonction comme chien de garde de la démocratie indienne. Les médias n'ont pas joué leur rôle. Il y a certains médias indépendants, par exemple le Wire ou d'autres pour lesquels j'écris, mais on est bien dans une minorité. Donc il y a plusieurs facteurs qui ont contribué.
Évidemment, on est en train de discuter ces plusieurs facteurs. Je suis entièrement d'accord avec vous. Quand vous
parlait de la propagande. La propagande fait partie du fascisme. On n'est pas prêt à oublier que la machinisation de la propagande, ça fait partie du fascisme.
Ingrid Terwatt. Les soviétiques aussi avaient une machine à propagande extraordinaire. Quelque part, peut-être, ils se rejoignaient aux fascistes dans leur manière de contrôler tout.
Ingrid Terwatt.
Pour en revenir à la question de qui a voté pour Narendra Modi et pourquoi. Je crois qu'on est d'accord sur la machine de guerre de propagande de Narendra Modi. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec vous quand vous disiez que d'abord qu'on donnait l'image d'une Inde peuplée de fascistes. Je crois que c'est pas le cas. On avait un discours quand même plus nuancé que ça. On parlait des institutions, d'une organisation politique. Il s'agit pas de dire que toute la population est fasciste. Par contre, qu'il y a un vrai phénomène de lavage de cerveau. Oui. Vous disiez que il était élu sur une plateforme économique, sur un agenda économique. Ça a pu être le cas en grande partie en 2014.
En 2014, c'est vrai.
Mais là, quand on regarde la campagne de façon très dépassionnée, du coup, hein. Quand on observe, quand on suit de très près les différents discours, on observe que là, il n'a pas été question d'économie. Pourquoi ? Parce que le bilan est, comme vous le disiez Laurent, mauvais. Donc il n'a pas fait sa campagne là-dessus, il a fait campagne sur des questions identitaires, sécuritaires, contre le Pakistan. D'ailleurs, quand il a bombardé le Pakistan, sa cote de popularité est passée la veille de 33%, au lendemain 62%. C'était un effet assez immédiat, assez mécanique. Et donc, dans ces conditions, on peut se demander effectivement, il y a la propagande, etc., pourquoi il a été élu ? Pas pour l'économie, hein. Ça ne trompe personne. Il a été aussi élu parce qu'il a ce discours de la fierté. De ce discours hyper national populiste de la fierté retrouvée.
Et la haine anti-musulmane.
Oui, mais ça, l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire qu'on a construit cette idée depuis les années 80 des hindous comme, je reprends une expression de Christophe Jaffrelot, de minorités assiégées. Ils sont très majoritaires en Inde, mais
comment ils arrivent pas à se faire représenter politiquement?
Mais ils sont très représentés, ce sont les musulmans qui sont pas représentés
politiquement. Oui, non, mais comment les musulmans?
Cette idée qu'il faut redonner de la fierté aux hindous, qu'il faut récupérer le pays, il y a à côté le Pakistan qui a été conçu comme le pays des musulmans d'Asie du Sud asiatique. Eh bien, le rêve des nationalistes hindous, c'est d'avoir un Hindu Rashtra, un pays pour les hindous sur le modèle du Pakistan. Et ils arrivent à convaincre et à séduire avec cette idée d'une Inde forte, militariste, macho, puissante, virile.
Oui, c'est la manque de virilité quand j'ai dit que les hindous, on leur a dit, vous êtes devenus faibles parce qu'il y a eu des musulmans qui ont régné sur vous, et depuis 500 ans qu'on tolère, ou depuis 1000 ans, on est esclave de ces musulmans, donc c'est le musulman qui devient l'autre.
Et donc les autres vont devenir des sous-hommes, les musulmans justement.
Mais ils le sont devenus déjà. Pas qu'ils vont devenir. Ils le sont devenus déjà.
Où est-ce qu'ils gouvernent malgré tout en tenant compte de ces minorités?
Parce qu'on dit toujours que les libéraux comme nous, hein, et le libéral est devenu une injure, c'est devenu une espèce d'insulte. On nous appelle pas séculaires, mais séculeurs. Les gens qui sont sick, qui sont malades dans la tête. Dès que vous disiez que le gouvernement ne fait pas telle chose correcte ou telle chose qu'il fait mal, vous devenez les antinationaux. Dès qu'un acteur musulman dit que je me sens inconfortable dans ce pays, on dit « alors t'as qu'à aller au Pakistan ». Et c'est ça le discours, qu'on a créé le Pakistan pour les musulmans, donc les musulmans indiens sont par définition, selon eux, les antinationaux qui travaillent contre les intérêts de l'Inde. Modi a systématiquement alimenté le problème au Cachemire pour qu'il puisse dire au reste du pays, voilà les musulmans, voilà ce sont des fouteurs de bombes, voilà ce qu'ils font, et c'est pour ça qu'il faut les haïr.
On va retourner en Inde, même si on n'a pas très envie manifestement ce soir. On va y retourner dans quelques... En tout cas, c'est très intéressant et passionné.
We'll be right back.
Woman, une association plus que réussie entre Danger Mouse et le sorcier du son et la chanteuse électrique Careno dans le NRV.
Pas mal. Le grand vainqueur des législatives en Inde, c'est lui, Narendra Modi, le Premier ministre sortant. Son parti nationaliste, le BJP, a obtenu une très large majorité.
Le nouveau rendez-vous.
Depuis 5 ans, le gouvernement du BJP a mené une politique hindouiste féroce.
Il a dit qu'il était nécessaire de purifier les musulmans pour en faire des hindous.
Modi est un héros mondial, il a combattu le terrorisme et il n'y a que les terroristes qui sont opposés à Modi.
Sur France Inter.
L'Inde est au programme ce soir du nouveau rendez-vous et pendant la chanson, vous nous avez tous dit autour de la table, il faut parler du Kerala. Pour quelle raison, Ingrid Terwatt, de Courrier International?
Ah, il y a tellement de raisons de parler du Kerala, qui est une région que j'aime beaucoup, mais pour ce sujet politique, le Kerala a été un des seuls endroits en Inde qui n'a pas réservé à Modi et à son parti un triomphe. Pourquoi? Alors, c'est intéressant, c'est le dernier bastion qui résiste, parce que le Kerala a, comme le Bengale, mais une histoire très particulière, une place très particulière dans la fédération qu'est l'Inde. L'Inde est une fédération constituée de nombreux États. D'abord, le Kerala a été dirigé longtemps par les communistes. Je suis pas sûre que ça soit pour ça, que nécessairement d'ailleurs que...
C'est là où il y a la guérilla maoïste.
Pas vraiment, non, c'est plutôt dans le nord-est, c'est plutôt dans le nord-est de l'Inde plus qu'au Kerala, non? Par contre, il y a plusieurs choses qui font que le Kerala est une exception et peut donner aussi des éléments de réponse et un espoir pour l'avenir. D'abord, les différentes religions principales de l'Inde, l'islam, le christianisme et l'hindouisme, y sont représentées presque à part égale. Donc, il n'y a pas de majorité écrasante et de minorité opprimée. D'autre part, les femmes au Kerala ont un taux de d'éducation, d'alphabétisation très fort. Et ça, c'est pas du tout pour vous peindre un portrait rêvé d'une région qui serait paradisiaque. Il y a beaucoup de problèmes sociaux, beaucoup de problèmes économiques, sociaux, etc. N'empêche que, quand on a un taux d'alphabétisation très fort, un bon système de santé, des gens qui vont à l'école, et une représentation équitable, équilibrée des différentes communautés, eh bien ça garantit aussi, ça fait un peu barrage à la propagande. Ça ne garantit rien, mais
pardon
ça
de vous dire ça,
mais
alors les Occidentaux qui vont en Inde, qui vont dans des ashrams, qui vont à Auroville, c'est des imbéciles? Ils voient une Inde de carton-pâte comme les gens qui vont à Disneyland? Ou est-ce que ça existe aussi cette Inde qui n'est pas une Inde nationale populiste,
raciste? La réponse
raciste
est quand même un peu dans votre question.
Shumana Sina.
Il y a le Kerala et il y a le Bengale occidental qui a été gouverné par le Parti communiste, pas un système totalitaire mais élu démocratiquement, qui s'est inscrit dans le système démocratique parlementaire pendant 34 ans au Bengale occidental, d'où je viens, et que vous, Ingrid, vous aimez Kerala, moi j'aime particulièrement Bengale occidental, qui a monté le barrage idéologique contre la montée de nationalisme hindouiste. Et là, ce que vous dites, que le taux de pourcentage d'éducation parmi les femmes, sécularisme, instaurer un système éducatif laïque, obligatoire et progressiste, ça c'est le Bengale occidental. Mais là, après 34 ans, aujourd'hui ce qui se passe, pour rechasser un peu ce qu'on a déjà dit, c'est que d'un côté la montée de BJP, Congrès défaillant complètement, et l'opposition qui était là, depuis l'indépendance de l'Inde, l'opposition était gauche et rassemblement de gauche. Cette gauche a échoué au Bengale occidental, je peux parler de Bengale occidental, cette gauche qui a été au pouvoir pendant 34 ans, il est complètement évincé. Là, ce n'est pas un cas isolé. Parce que dans les années 80-90, quand la gauche triomphe, encore par du compte du gendarme gauche, c'est le parti communiste, c'est pas les maoïstes, c'est les démocratiques, qui étaient au pouvoir, qui gagnaient, c'était parce qu'on liait encore avec l'Union soviétique. L'URSS, c'est le bloc soviétique. Depuis le chute de l'URSS, il y a un vide géant idéologiquement. Ce vide, les communistes de l'Inde, communistes de Calcutta, communistes de Bengale occidental, ils n'ont pas réussi à surmonter la chute de bloc soviétique.
Comme dans tous les pays.
Oui. Je voulais répondre à la question de Christophe
sur le Disneyland
et les Français ou occidentaux.
Est-ce que les Français s'aveuglent ou pas?
On peut pas dire ni oui ni non. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est sûr que il y a cette image de la non-violence véhiculée par toute une espèce de mythologie sur l'Inde,
des gourous
qui
datent
des années 60, 70, et puis avant ça avec la doctrine de l'ahimsa, la non-violence, qui en fait comporte une part de violence très forte, mais qui est mal interprétée, mal comprise. Il y a eu une mode de l'Inde, etc. Dire que je veux pas du tout dire que l'Inde est un pays de fascistes, fous furieux, dangereux, mais c'est pas non plus un pays d'illuminés qui pense béatement à la spiritualité. Oui, mais
les Français semblent vaciller entre deux choses. D'un côté, il y a ces idées reçues de l'Inde spirituelle, pays de paix, de Gandhi et tout le reste. Et après, quand il y a eu tous ces vols, l'Inde qui est devenue vraiment le pays le plus dangereux pour les femmes qui existent sur Terre. Toutes ces deux images sont des faux, sont des liens communs, sont des images reçues. L'Inde n'est ni totalement spirituelle, ni totalement un pays de violeurs traite très très mal. Évidemment, il y a une patriarchie en Inde qui est très forte. Les femmes luttent. Pour moi, c'est les femmes indiennes qui sont des vraies héroïnes, d'une certaine manière, de ce pays. Mais en fait, je crois que souvent, les Français sont paresseux. Ils veulent pas se donner suffisamment de mal pour lire des choses qui sont écrites. On a d'excellents livres qui expliquent
la situation d'aujourd'hui.
Et les Français ne lisent pas.
Patrick
de Jacquelot. Il faut qu'ils s'informent.
Oui, Patrick de Jacquelot.
Je voudrais faire deux remarques.
Journaliste, ancien correspondant à New Delhi.
Oui, je voudrais faire deux remarques. D'abord, l'idée que l'Inde est le pays de la non-violence, c'est une image totalement erronée, qui est liée complètement à l'image de Gandhi, qui était quelqu'un de totalement exceptionnel, mais à un certain point de vue, c'était presque le contre-exemple, parce que la société indienne est extrêmement violente. Une société basée sur le système des castes, où quand vous naissez dans votre caste, vous ne pourrez, quoi que vous fassiez, vous ne pourrez jamais en sortir. Et toutes les relations sociales sont basées sur la petite place dans laquelle vous êtes né, et puis et qui ne changera jamais. C'est déjà une violence très profonde dans le fonctionnement de la société. Et puis par ailleurs, juste sur la question des Occidentaux qui viennent dans les ashrams, moi j'en ai rencontré un certain nombre pendant mes années là-bas, et en fait, ils débarquent à l'aéroport, ils vont dans leur ashram, ils entrent dans leur ashram, ils n'en sortent plus, et ils n'ont aucune idée de ce qui se passe en dehors de leur ashram.
Eh bien, ce soir, on aura un peu plus d'idées de ce qui se passe en Inde. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci Vajnou, Naravane et Patrick de Jacquelot. Ingrid Terwatt, je signale que l'on peut vous lire dans Courrier International. Et Shumana Sinha, votre dernier livre, Apatride, est toujours disponible aux éditions de l'Olivier et en poche chez Point. Mais le mot de la fin, il est peut-être pour vous, Christophe Bourseiller.
Merci Laurent de m'accorder un petit mot de la fin. Je suis très touché. Et le mot de la fin, bah écoutez, j'hésite un petit peu, mais je crois que je vais prendre la phrase d'Ingrid Terwatt que j'ai notée à un moment donné. Il y a en Inde un vrai phénomène de lavage de cerveau.
Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache trois drôles de garçons. Le premier sort et me parle un peu de la pluie qui nous visite. Le deuxième à son tour arrive et me demande une cigarette. Mais le troisième a dans la tête plus d'une emmerde que mes poches pourraient régler. Et sa gauche s'est élancée. Oh oh. Et paf sur le boulevard. Ma veste, mes cigarettes. Pendant que je restais sur place, sans un mot, sans un geste, et l'air désabusé. Jamais je n'avais fait tourner autant une scène en mon esprit. En la rejouant, me venaient quelques réponses bien senties. Que j'aurais pu lancer sans peur aux trois voleurs, quitte à se faire amocher. Autant dire ce que ça fait. T'as pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas raquer un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. Si je sors bien les violons, ils vont me rendre mon blouson. Peut-être même mon téléphone, je récupère mes affaires et je leur file ma monnaie.
Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache trois drôles de garçons qui en veulent à mon blouson. Oh oh. Et paf sur le boulevard, la tête dans le brouillard. Pourquoi je parle au loupard, j'en sais rien, c'est le jeu, je vais pas raser les murs. Ils en veulent à mes baskets, ma veste et mes cigarettes. Je vais pas rester sur place sans un mot, sans un geste et l'air désabusé. T'as pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas raquette un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. J'ai sorti les violons, ils m'ont rendu mon blouson. Et même mon téléphone, j'avais toutes mes affaires, j'aurais filé ma monnaie.
Et on se quitte avec les trois loupards signés Voyous, peut-être une métaphore de ce qui s'est raconté ce soir sur l'Inde dans le NRV. Car aujourd'hui, c'est fini. Cette année, vous le savez, c'est chaque jour dès 18h en avant-première sur franceinter.fr en podcast. Et puis toujours en lien sur Facebook, Twitter, Instagram avec le hashtag NRVFI. La réalisation était signée ce soir Anne-Cécile Perrin et Juliette Medeviel. À la préparation, c'est Virginie Rosic, Corinne Valente, Laure Grand-Besançon, Benoît Lagane, Gaëtan Lévy et Louisa Chausse. À la technique, Jérémy Guillon et Julien Dumont. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Je crois que là, vraiment, tout a été dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Alors à demain.